nous guérisses. Nous voulons collaborer avec toi. Que cela soit un terrain fertile. Nous voulons avoir un cœur qui comprend ta parole et qui la met en pratique. Que ta parole puisse pénétrer dans nos cœurs et que toute la gloire et la louange te reviennent. Ta parole n'est jamais vieille. De Pierre, 3. De Pierre, 3. Chapitre 3. Sept. Peut-être de versets 7 à 10. Non, 7 à 12. Non, 7 à 13. Mais par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Mais il est une chose, bien-aimés, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme mille ans, et mille ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas. Les éléments embrasés se dissoudront et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Puisque tout cela est en voie de dissolution, combien votre conduite et votre piété doivent être saintes. Attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, jour à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui, sans tâche et irréprochables, dans la paix. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tâche et irréprochables dans la paix. Il y a des personnes qui disent qu'on ne doit pas mettre une pression, mais ça, ce n'est pas une pression, ça, c'est simplement normal. Cela ne veut pas dire que nous mettons de la pression sur les personnes, mais nous ne pouvons pas faire ce que nous voulons. Nous ne pouvons pas simplement dire, oh oui, on croit, et rien ne va nous arriver. Ce n'est pas ce que dit la parole. On doit s'attacher à la parole du Seigneur. Le Seigneur nous rappelle tout simplement. Il ne veut pas nous faire peur. Mais parce que nous savons que cela va venir, nous devons nous préparer. Et ça, c'est normal. Si tu sais que tu dois faire un examen, tu étudies. Pas juste une heure par semaine, mais chaque jour. Et plus la date de l'examen s'approche, plus tu vas te préparer. Tu vas boire beaucoup de café afin de rester éveillé. Ça, c'est normal. Ça, c'est simplement normal. Et si nous nous préparons tous les jours, nous ne serons pas sous pression, mais on va simplement rafraîchir la matière. C'est être raisonnable. Ce n'est pas que nous devons être tellement effrayés et que nous ne pouvons plus vivre normalement. C'est ce que Pierre nous dit. Paul nous dit cela aussi. Et puis aussi les prophètes. Alors, nous, comment est-ce qu'on peut dire autrement? Si nous disons quelque chose d'autre, oh non, c'est un mensonge. C'est un faux prophète. C'est un faux prophète qui parle d'une fausse paix, qui parle. L'ennemi vient et attaque. Et les prophètes disent au peuple, Dieu est avec nous, n'ayez pas peur, rien ne va se passer. Aujourd'hui, il y a beaucoup de faux prophètes. Et nous n'en avons pas besoin. Nous n'avons pas besoin de ces faux prophètes. Nous avons la parole de Dieu. Lisez simplement la parole de Dieu. Et la parole va nous parler. En fait, je n'ai même pas besoin de parler, car je dis simplement ce qui est écrit dans la Bible. Et cela doit nous encourager. Cette communion, c'est pour nous encourager, c'est pas pour nous enseigner, mais c'est simplement un rappel, et nous en avons tous besoin. Nous avons maintenant on retourne. Au passage d'Ésaïe. Où sommes-nous? Voyez-vous, je ne sais même pas où nous en sommes. Page 2. Le point 2. Nous n'avons pas besoin de lire les versets de l'Apocalypse, mais oh, peut-être que c'est quand même bien, c'est mieux que de la communion. Maintenant, on lit Apocalypse, chapitre 6. Ah non, pas chapitre 6, oui. Et ce sceau va bientôt être ouvert. Et ce sceau sera ouvert lorsque le traité de paix sera signé, après 3 ans et demi, ou bien peu de temps avant. Après, je regardais verset 12. Je regardais quand il ouvrit le sixième sceau et il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin. La lune entière devint comme du sang. Et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre comme les figues vertes d'un figuier secoué par un vent violent. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et ils disaient aux montagnes et aux rochers, « Tombez sur nous !» Et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau, quand le grand jour de sa colère est venu et qui peut subsister? Qui peut subsister? L'Apocalypse nous montre qu'avant ce grand jour de colère, le sixième sceau sera ouvert. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Tous auront peur, peu importe qui c'est. Exactement comme Esaïe l'a dit. Il n'y a plus de différence entre les rois, les serviteurs, les forts, les faibles, les riches, les pauvres. Tous devront se cacher dans les cavernes et dans les rochers. Et ils parleront aux rochers, tombez sur nous. Mais ils ne vont pas obéir. Ça, c'est le jugement. Et en ce temps-là, ils verront le trône. Et ils verront celui qui est assis sur le trône. Et ils verront l'agneau. Mais ça ne sera pas plein de salut, mais de colère. Ça sera la colère de l'agneau. Nous ne pouvons pas nous imaginer cela aujourd'hui. Car le grand jour de sa colère est venu. Et qui peut subsister? C'est comme ça. Chapitre 19. On va le lire brièvement. Ça, c'est le dernier combat, la dernière guerre. Et ça, c'est la fin de cette guerre. Et comme Esaïe a dit, et j'ai vu la bête, les rois de la terre et leurs armées rassemblés pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. Et la bête fut prise et avec elle le faux prophète qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans l'étang ardent de feu et de soufre. Et les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le cheval, et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. Ça, c'est la fin des 3 ans et demi, la deuxième partie. Et Esaïe a dit clairement, en ce jour-là, chapitre 27, 1, je crois. En ce jour, l'Éternel frappera de sa dure, grande et forte épée le Léviathan, serpent fuyard, le Léviathan, serpent tortueux, et il tuera le monstre qui est dans la mer. Esaïe 27, 1. Ce grand dragon et ce faux prophète. ils seront tous les trois tués. Et ils seront jetés vivants dans l'étang de sang. Et ils seront tous jetés vivants dans l'étang ardent de feu et de soufre. Et ensuite, Dieu va encore l'utiliser comme outil à la fin des mille ans. Le reste sera tué par l'épée de sa bouche. Pouvez-vous vous imaginer cela? C'est une confusion totale. Tout au début, cette étoile va descendre et il va ouvrir l'abîme et tous les démons vont sortir. Ils vont sortir comme une fumée d'une cheminée. Ça, c'est pas très beau. Ils seront vos voisins. Peut-être qu'ils vont même déménager dans votre appartement. Ils vont être des colocataires. Ce n'est pas beau. Et ensuite, Satan, il viendra avec un tiers des anges déchus et ils seront tous jetés sur la terre. Ils vont rester ici, sur terre. Un tiers de ces êtres, ces anges déchus, seront sur la terre. Et ceux qui restent, ils ont maintenant vraiment de très beaux voisins. Ils ont des voisins célestes. Ils ont des voisins qui viennent de sous la terre. Est-ce que vous voulez encore rester, si c'est comme ça? Qui aimerait rester ici sur terre, si c'est comme cela? Je crois que personne qui est raisonnable va rester sur terre. Alors, où allez-vous? Sur la Lune? Vous allez aller sur Vénus, c'est pour ça qu'il y a des fusées aujourd'hui. Où est-ce que vous voulez partir? Vous voulez voler jusqu'où? C'est une confusion totale, absolue. Si vous voulez vous réjouir de la nature, faites-le aujourd'hui, mais pas en ce temps-là. C'est terrible. C'est vraiment terrible. Ça sera vraiment terrible. Lorsque la cinquième trompette sera sonnée, l'abîme sera ouverte et tous ces êtres démoniaques vont sortir et ils vont persécuter les personnes qui sont sur terre durant 4 mois. Et on ne pourra pas mourir. Même ceux qui veulent mourir ne le peuvent pas. Tous ceux qui n'ont pas le sceau. En ce temps-là, Apocalypse 12 nous dit qu'il y en a qui ne seront pas enlevés, qui sont restés. C'est ceux qui ont le témoignage de Jésus. Qui a le témoignage de Jésus? Jésus, ce sont les croyants et ils observent la loi de Dieu. Ça, c'est les Juifs. Cela veut dire qu'il y aura des chrétiens et bien sûr des Juifs qui seront encore sur cette terre et ils ne seront pas enlevés. Et le dragon, il va les suivre et il va combattre contre eux. Parce qu'il y en a beaucoup. Au chapitre 13, qu'il y aura une guerre. S'il y a seulement de la persécution, ce n'est pas encore une guerre, mais une guerre, ça veut dire qu'il y a de la résistance de l'autre partie, parce qu'il y a encore quelques millions qui sont sur Terre. Ils ne vont pas simplement rester là et être tués. Pensez-vous pas que les Juifs ne vont pas résister? Et la bête va les vaincre. Comment est-ce que vous allez combattre contre tous ces démons avec des épées et avec des bombes? Bien sûr que la bête va les vaincre, c'est évident. Ne pensez pas que cela soit si facile. Et lorsqu'il y a la sixième trompette, il y a des milliers de cavaliers qui vont déferler. Ils ont une tête comme un lion et ils ont une queue comme un scorpion. Et du feu sort de leur bouche. Et ce sont des cavaliers étranges. Ils vont partout dans le monde et ils tuent le tiers de toute la population. Plus de 2 milliards de personnes. Pour une année et un mois et une semaine. Même Dieu a dit par Jean, combien de temps? Entre le cinquième et la sixième trompette, il y aura au moins une année et demie. Qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce que tu veux rester ici? Personne n'aimerait rester ici. Alors qu'est-ce qu'on va faire si on ne reste pas ici? Tu devrais te préparer. Tu devrais vivre de manière pieuse. Tu devrais vivre de manière sainte. Et par notre transformation, nous ne faisons pas comme nous le voulons. Oh, je peux aller grimper quelque part, faire de la varap. Je ne sais pas ce que vous voulez faire. Oh, je veux faire toute chose. Oui, faites-le. Tu peux le faire. Mais est-ce que c'est comme cela que tu te prépares? Faire du fitness. À la fin, tu es vraiment prêt pour les 3 ans et demi. Comme ça, tu peux courir très rapidement et tu peux grimper dans les montagnes. Mais si tu te prépares comme cela, tu n'es pas en train de te préparer pour l'enlèvement, mais pour grimper dans les montagnes. Tu vas aller quelque part dans le Schwarzwald ou bien quelque part dans les Alpes où tu peux te cacher lorsque le moment viendra. Alors tu es vraiment en forme. Excusez-moi. Je plaisante un peu, mais je plaisante comme cela parce que sinon vous n'allez pas vraiment vous rappeler de ce que ça veut dire. Et à quelques endroits, Ésaïe a aussi parlé avec beaucoup d'humour. Il a utilisé des images. Une image est meilleure que 1000 mots. Que voulons-nous faire? Comment vas-tu te préparer? Et puis, vous pouvez lire tout cela vous-même. Mais j'aimerais juste vous dire, qu'est-ce que la fin de ce dragon? Il sera lié. La bête et le faux prophète. Ils seront jetés vivants dans l'étang de feu. ils seront les premiers qui vont atterrir dans les temps de feu. Nous devons voir cela. Et ce n'est vraiment pas bien si nous sommes encore sur terre à ce moment-là. Ne vous laissez pas tromper, détourner par l'enseignement chrétien que nous serons tous enlevés. Non. L'enfant mâle sera enlevé. Les vainqueurs, ceux qui n'ont pas aimé la vie de leur âme jusqu'à la mort, ça c'est les martyrs. Ceux qui ont gardé le vrai témoignage du Seigneur, pas seulement des paroles. Ceux qui se laissent purifier par le sang du Seigneur. Ce n'est pas que tu te dis, oh, je me laisse purifier aujourd'hui et demain je pêche. C'est pour cela que nous avons les offrandes pour le péché et pour les transgressions. Nous voulons être libérés de la loi du péché. Nous ne voulons pas constamment nous purifier, puis ensuite je pêche de nouveau. Est-ce que c'est ça le salut que le Seigneur aimerait nous donner? Paul n'a-t-il pas dit dans Romains 8 que la loi de l'esprit de la vie en Jésus-Christ nous a libérés ou nous libère de la loi du péché et de la mort? Et c'est pourquoi nous voyons que c'est si important. Ce n'est pas pour vous effrayer. Le Seigneur n'a pas du tout l'intention de nous effrayer. Il veut simplement que nous soyons raisonnables. Oh, ne mettez pas les jeunes sous pression, sinon à la fin, ils tremblent. Rappelez-vous, Ésaïe 12. Nous avons cet esprit merveilleux du Seigneur et une caractéristique merveilleuse de cet esprit, c'est la crainte du Seigneur. Car si nous n'avons pas la crainte du Seigneur, alors nous pouvons faire tout ce que nous voulons. Nous devons avoir une saine crainte. Je dois avoir cette crainte. Je ne sais pas si tu en as besoin. Je ne peux pas le dire. Mais pour moi, c'est nécessaire. Je peux témoigner, comme je l'ai souvent fait, que la crainte du Seigneur m'a préservé de beaucoup de choses. Nous avons encore la chair. Nous avons encore cette nature déchue en nous. Et si nous n'avons pas cette crainte, cette saine crainte du Seigneur, je crois que ma chair est capable à tout faire, exactement comme la chair des incroyants. Ce qui est né de la chair, c'est de la chair et ça reste de la chair. C'est pourquoi, dans sa parole, Dieu nous a tout montré à l'avance. Pourquoi? Est-ce que c'est écrit pour les incroyants? De toute manière, les incroyants ne lisent pas. Qui lit l'Apocalypse? Même les chrétiens ont peur de lire l'Apocalypse. Et on veut leur dire, oh non, vous ne pouvez pas comprendre l'Apocalypse. Mais le verset dit, heureux ceux qui lisent. Heureux ceux qui lisent, qui entendent cette parole, qui la lisent et qui la mettent en pratique. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent et qui gardent. C'est comme ça. Je dois lire cela d'autant plus. Et Ésaïe avait déjà dit ça depuis très longtemps. Il l'a dit bien avant Jean. Mais en ce temps-là, c'était par rapport à Israël. Israël était le peuple de Dieu, mais aujourd'hui, nous sommes le peuple de Dieu. Nous sommes le peuple céleste de Dieu. Ne pensez pas qu'Israël n'existe plus. Maintenant, il y a le peuple céleste et le principe est le même. En ce temps-là, il y avait Sion et Jérusalem. Aujourd'hui, nous avons la Sion céleste, la Jérusalem céleste. En ce temps-là, il y avait Isaac et le peuple. Et aujourd'hui, Galates nous dit que lorsque nous avons été baptisés en Christ, nous l'avons revêtu et nous sommes comme Isaac. C'est comme cela. Il y a un problème avec le microphone. C'est comme cela. Ce que le Seigneur leur a dit en ce temps-là, spécialement ici dans Ésaïe, cela vaut pour nous. C'est valable pour nous. Tous ces versets montrent qu'Ésaïe avait déjà tout dit et il a tout décrit de manière tellement spécifique. C'est terrible. Mais peut-être on devrait lire dans Zacharie. Le temps passe si rapidement. Zacharie. Chapitre 12. Chapitre 12. Ça viendra bientôt. Ainsi parle l'Éternel qui a étendu les cieux et fondé la terre et qui a formé l'esprit de l'homme au-dedans de lui. Nous avons les cieux, la terre et l'esprit de l'homme. Cela veut dire que notre esprit est si important pour le Seigneur. Mais si tu n'apprends pas à marcher en esprit et par l'esprit, alors c'est égal si tu as un esprit ou non. À quoi sert ton ordinateur si tu ne sais pas comment il fonctionne? Moi, je dois toujours demander aux jeunes comment ça fonctionne, vraiment. J'ai besoin d'aide des jeunes. Ça, c'est le grand jour de sa colère. En ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples. Verset 3. Tous les pays haïssent ce pays. C'est le centre de tous les problèmes aujourd'hui. Qui a planifié cela? C'est Dieu. C'est Dieu. En ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples. Tous ceux qui la soulèveront seront meurtris et toutes les nations de la terre s'assembleront contre elle. Ça, c'est la vérité. C'est ce qui se passe. Et personne ne peut empêcher cela parce que Dieu, il avait déjà prédit cela. Et ça se passera ainsi. Verset 4. En ce jour-là, dit l'Éternel, je frapperai d'étourdissement tous les chevaux et de délire ceux qui les monteront. Mais j'aurai les yeux ouverts sur la maison de Juda. Quand je frapperai d'aveuglement tous les chevaux des peuples. Et ce sera comme cela pendant la guerre d'Armageddon. Dieu, il va tout détruire avec l'épée qui sort de sa bouche. Les chefs de Juda diront en leur cœur, les habitants de Jérusalem sont notre force par l'Éternel des armées, leur Dieu. Et nous voyons de nouveau qu'il est l'Éternel des armées. Il combat. Dieu est un combattant extraordinaire. Verset 6. En ce jour-là, de nouveau, c'est en ce jour-là, je ferai des chefs de Juda comme un foyer ardent parmi du bois, comme une torche enflammée parmi des gerbes. Ils dévoreront à droite et à gauche tous les peuples d'alentour. Et Jérusalem restera à sa place à Jérusalem. À sa place. Ça veut dire quand le Seigneur reviendra. Il reviendra à Jérusalem et non à New York, non à Francfort, à Londres, à Zurich, non à Copenhague, mais à Jérusalem. Notre Dieu ne change pas ce qu'il a prévu. Il va certainement l'accomplir. Aujourd'hui, pas. Il a abandonné. Mais cela ne veut pas dire qu'il va oublier la Jérusalem terrestre pour toujours. Il va revenir. Et Ézéchiel nous dit qu'il nous parle du temple dans Ézéchiel, et j'espère que nous avons vu cela très clairement lors de la conférence sur Ézéchiel. À la maison des frères, vous avez accroché tout le tableau du temple. Ça, c'est beau. C'est précieux. Ils ont rejeté la pierre de l'angle. Mais pour Dieu, c'est précieux. C'est quelque chose de tellement précieux. Alors, ça dépend de ce que tu vois. Celui qui a des yeux, il voit. Le Seigneur va de nouveau choisir Jérusalem. Il sauvera d'abord les tentes de Juda afin que la gloire de la maison de David, la gloire des habitants de Jérusalem ne s'élève pas au-dessus de Juda. En ce jour-là, verset 8, l'Éternel protégera les habitants de Jérusalem. En ce jour-là, même le plus faible parmi eux sera dans ce jour comme David. La maison de David sera comme Dieu, comme l'ange de l'Éternel devant eux. En ce jour-là, je m'efforcerai de détruire toutes les nations qui viendront contre Jérusalem. Etc. Alors je répondrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique.
Et anderen auf mich sehen, wenn sie durchstochen haben. Ja, sie werden
uns danken.
Wir haben klappt.
Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. Le Seigneur était le premier-né de Dieu. Il est né et il était aussi le premier-né comme personne, comme homme. Il était le premier-né d'entre les morts. Ici, c'est déjà écrit si clairement dans Zacharie 12. Qui ne peut pas croire que c'est la parole de Dieu? Et ils vont voir cela et ils vont se lamenter car ils l'ont renié et ils l'ont percé. En ce jour-là, le deuil sera grand à Jérusalem. Parce que le Seigneur revient et est revenu. Aujourd'hui, ils sont tellement fiers et tellement aveuglés. Comme le deuil d'Adarimon dans la vallée de Megiddo. Le pays sera dans le deuil, chaque famille séparément. Autant de du roi Josias, ils se sont tous lamentés. Ils ont pleuré amèrement. Et le Seigneur a de nouveau utilisé comme image pour leur rappeler cela. Si ils avaient beaucoup apprécié Josias parce que c'était un bon roi. Mais ici, c'est le roi des rois qu'ils ont tué. La famille de la maison de David séparément et les femmes à part. La famille de la maison de Nathan séparément et les femmes à part. La famille de la maison de Lévi séparément et les femmes à part. La famille de Shimei, etc. Tous. Toutes les autres familles. Chaque famille séparément et les femmes à part. Ils vont se lamenter. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas nous représenter cela. Et nous avons connu le Messie. Aujourd'hui, nous avons connu la vérité. Nous sommes nés de nouveau. Le Seigneur vit en nous et nous n'apprécions pas cela. Et nous ne marchons pas selon cela. Est-ce que vous pensez que lorsque le jour viendra, qu'il n'y aura pas des pleurs et des grincements de dents? Spécialement, si nous manquons la bénédiction des mille ans et nous devons aller dans les ténèbres du dehors et nous recevons une punition, est-ce que nous n'allons pas pleurer? Est-ce que nous n'allons pas avoir des pleurs et des grincements dedans? Je ne veux pas vous effrayer, mais c'est un fait. Que nous le croyons ou non, c'est écrit. Ce ne sont pas mes paroles, mais ce sont les paroles du Seigneur. Nous avons pensons que nous avons raison et nous faisons tout ce que nous voulons. Ne pensez pas que vous pouvez vous échapper ainsi. Pensez pas que vous pouvez échapper au jugement. On ne se moque pas de Dieu. Tu ne dois pas oublier cette parole. Dieu n'est pas un Dieu bête, stupide comme nous. Je suis stupide, mais lui, il ne l'est pas. Sa sagesse est sans limite. Déjà depuis la fondation du monde, il savait tout ce qui allait se passer. Et il savait qui allait être fidèle et qui allait être infidèle. Cela ne dépend pas de nous, mais dans un certain sens, celui qui entend, qu'il entende. Nous devons collaborer avec le Seigneur et nous devons avoir cette crainte. Paul, il servait avec crainte et tremblement. Et nous aussi, nous devons travailler à notre salut. Cela ne veut pas dire que tu vas à la croix et que tu te fais crucifier comme le Seigneur, non. Cela veut dire que tu dois l'appliquer jour après jour dans chaque situation. Là où c'est nécessaire, quand tu remarques, oh, maintenant, j'ai vraiment besoin d'appliquer ce salut. Avec crainte et tremblement. C'est écrit comme cela. Mais nous n'aimons pas ce verset. Ah, nous préférons la deuxième partie. Ah, car c'est Dieu qui agit en vous. Ah, c'est Dieu qui agit en vous. Il produit le vouloir et le faire. Alors pourquoi devons-nous travailler avec crainte et tremblement? Oh, croyez simplement et tout va bien. Ça, c'est la moitié de la vérité. C'est une demi-vérité. Une demi-vérité est un grand mensonge et mène à la destruction. Prenez la parole de Dieu pleinement, comme elle est. Ne prenez pas seulement la moitié. Alors, tu es un faux prophète si tu dis que la demi-vérité.
Amen.
Vous pouvez lire tous les versets vous-même. Je ne suis pas quelqu'un qui se tient là juste pour vous lire la Bible. C'est terrible. Mais c'est bien d'être impressionné pour voir ce qui se passe parmi le peuple d'Israël. Chapitre 13, 8. Dans tout le pays, dans le pays d'Israël, dit l'Éternel, les deux tiers seront exterminés et périront. N'est-ce pas beau? Ce n'est pas beau. Mais c'est écrit. Et je ne peux pas le changer. Je peux essayer de le réduire, mais je ne peux pas. Je ne peux pas dire, voilà, 10% seulement. Non, la parole dit, les deux tiers seront exterminés. Ça, c'est 66%. Peut-être que le mathématicien, il sait mieux calculer que moi. Deux tiers. Et l'autre tiers restera. Je mettrai ce tiers dans le feu et je le purifierai comme on purifie l'argent. Je l'éprouverai comme on éprouve l'or. Le Seigneur ne veut même pas avoir un tiers si ce n'est pas purifié. Il ne les veut pas. Ne pensez pas que Dieu accepte n'importe quoi. Notre Dieu n'est pas comme cela. Nous devons le connaître comme il est. Celui qui ne connaît pas Dieu, il fait tout ce qu'il veut. Il fait tout ce qu'il veut. Ils font ce qu'ils veulent, ils pensent qu'ils ont raison, ils vont même combattre. Nous devons lire la parole. Si Dieu, il purifie même ce tiers, est-ce que Dieu ne va pas nous purifier, nous sonder, nous éprouver? Lisez la Bible de nouveau. Paul, il dit, à travers le feu. On sera battu de beaucoup de coups et on sera jeté dans les ténèbres du dehors. Il y aura des pleurs et des grincements de dents. Je mettrai ce tiers dans le feu et je le purifierai comme on purifie l'argent. Je l'éprouverai comme on éprouve l'or. Il invoquera mon nom, pas seulement de la bouche, de la gorge. Ô Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. Mais pas du cœur, pas non plus. Ils invoquent simplement de la gorge, de la bouche, parce que c'est devenu une habitude. On doit invoquer le Seigneur d'un cœur pur. Comme l'Épître à Timothée nous le dit. Ça, c'est la seule manière. C'est comme cela que nous devons invoquer le Seigneur, pas seulement avec les lèvres. Il invoquera mon nom et je l'exaucerai. Je dirai, c'est mon peuple. Lorsque tu invoques, tu dois entendre une réponse. Et il dira, moi je veux l'entendre et je veux une réponse. C'est mon peuple. Le Seigneur doit l'affermir. C'est mon peuple. Et il dira, l'Éternel est mon Dieu. Si je lis ici, c'est exactement la même chose que dans Ésaïe. Ici, il décrit seulement la fin, comme les chapitres 25 et 27. 14. Voici, le jour de l'Éternel arrive. C'est toujours ce jour, ce jour-là. Nous devons remarquer cela. Et tes dépouilles seront partagées au milieu de toi. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. La bête pense qu'elle fait cela. Il y a trois grenouilles qui sortent du dragon, de la bête et du faux prophète. Ça, c'est tous ces démons qui vont partout sur la terre et qui rassemblent l'armée. Peut-être que la bête pensait que c'était son chef-d'œuvre. Mais en fait, il a oublié de lire Zacharie. C'est Dieu qui avait décidé cela. Eux, ils ont simplement accompli ce que Dieu avait déjà prévu. Dieu sait très bien qu'ils allaient faire cela pour lui. Nous avons un tel Dieu. Il ne va pas se salir les mains. Il y a déjà tellement d'outils sales. Eux, ils peuvent le faire. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. La ville sera prise, les maisons seront pillées et les femmes violées. La moitié de la ville ira en captivité. L'Apocalypse nous dit cela aussi. Il y a la cour extérieure qui n'est pas mesurée et ce sont les nations qui l'envahiront. En fait, l'Apocalypse ne nous dit rien de nouveau. Tout a déjà été dit. Nous devons reconnaître cela. Ne vous laissez pas être détournés par ceux qui disent que l'Ancien Testament, ça c'est simplement l'Ancien Testament, nous n'en avons pas besoin. Ce sont les faux prophètes qui disent cela, les aveugles. Ils utilisent l'Écriture comme bon leur semble. Si toi tu dis la vérité, eux ils disent qu'il s'agit de l'Ancien Testament. Si eux ils disent cela, ça va, mais si toi tu le dis, ça va pas.
Ja. Der Überrest des Volkes aber soll nicht aus der Stadt ausgerottet werden.
La moitié de la ville ira en captivité, mais le reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville. Il y a un reste, de nouveau un reste. L'Éternel paraîtra et il combattra ses nations. L'Apocalypse, chapitre 19, nous le dit déjà. Comme il combat au jour de la bataille, verset 3. Verset 4. Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers. Dans l'Apocalypse, l'ange... Dans le Nouveau Testament, il a dit, « Pourquoi regardez-vous en haut ? » Le Seigneur, il va revenir sur la montagne des Oliviers. Zacharie a déjà dit cela. Et ils ne doivent pas s'étonner parce que le Seigneur va poser ses pieds sur la montagne des Oliviers. Mais les disciples, ils avaient oublié que c'était écrit. Alors l'ange a dû de nouveau annoncer cette parole. Tout a déjà été écrit. Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté de l'Orient. La montagne des Oliviers se fondra par le milieu, à l'Orient et à l'Occident, et il se formera une très grande vallée. Il y aura un chemin pour s'échapper. Mais maintenant, ce n'est pas la mer. Maintenant, c'est la montagne qui va se partager. Que cela soit un fleuve ou une montagne, c'est égal. Le Seigneur, il ouvre un chemin. Combien de temps faut-il pour réparer une autoroute? Mais le Seigneur, il peut faire de telles choses en une seconde. Il peut créer une autoroute, un chemin pour s'échapper. Toutes choses sont possibles pour Dieu.
Amen.
Et il se formera une très grande vallée, verset 4. Une moitié de la montagne reculera vers le septentrion et une moitié vers le midi. Vous fuirez alors dans la vallée de mes montagnes, car la vallée des montagnes s'étendra jusqu'à Hatzel. Vous fuirez comme vous avez fui devant le tremblement de terre au temps d'Ozias, roi de Juda. Et l'Éternel, mon Dieu, viendra et tous ses saints avec lui. Et tous ses saints avec lui. Et j'espère, comme Ésaïe l'a dit, j'espère que nous serons tous avec son armée. Louez le Seigneur. Le Seigneur ne va pas venir seul. Cela veut dire que si nous sommes qualifiés, si nous sommes comme l'enfant mâle et puis les prémices et aussi les martyrs, nous n'allons pas simplement rester là. Nous allons y rester, mais pour 3 ans et demi. Et nous reviendrons après comme son armée. Louez le Seigneur. Nous n'allons pas rester là-haut pour toujours dans les cieux. Je ne veux pas vous décourager, mais ça c'est pour 3 ans et demi. C'est mieux que rien. C'est mieux que de rester pendant 3 ans et demi, lorsqu'il y aura le grand jour de la colère de Dieu, où est-ce que tu veux rester? Est-ce que tu veux être en haut ou en bas? Bien sûr, en haut. Et comment? Comme ça? Tu t'assieds et tu attends. Non. Il y a des prérequis. Il y a des qualifications. Ce n'est pas quelque chose qui est impossible. Ce n'est pas facile, mais ce n'est pas non plus trop difficile. C'est normal. C'est normal. C'est pourquoi Watchmani a écrit un livre, La vie chrétienne normale et la vie de l'Église normale. Mais ça ne veut pas non plus dire que tu n'as pas besoin de faire quelque chose. Si on apprécie tellement les livres de Watchmani, alors lisez-les une centaine de fois et marchez selon ce qu'il dit. Ce que dit l'Écriture, Watchmani, ce n'est pas la norme. La norme, le standard, c'est l'Écriture. Aucun livre n'est une norme. Ce ne sont pas nos conférences qui sont la norme, mais le livre, la Bible, ça c'est la norme. C'est la norme. C'est notre standard. Encore quelques prières?